ces microparticules sont capables de diffuser beaucoup plus loin et d'entraîner un nombre important d'infections parmi les personnes, même si elles sont à des distances de plus d'un mètre.
Après les restaurants, certaines rues, même à vélo, le port du masque sera-t-il obligatoire en permanence en entreprise? Piste à l'étude par le gouvernement devant la reprise épidémique. Forts orages hier soir sur Bordeaux ou en région parisienne et la journée d'aujourd'hui sera encore chaude et électrique. Mais courage, promis, on en a bientôt fini.
Il me tarde d'être en fin de semaine, je voudrais qu'il pleuve, mais n'importe quoi, mais plus de chaleur, j'en ai marre.
Dans ce journal, coup de fil aussi au patron d'EHPAD qui demande moitié plus de personnel et la tenue par l'exécutif de ses promesses en termes d'embauche. Le témoignage des proches des humanitaires tués au Niger alors que 11 nouveaux experts français arrivent sur place pour aider dans l'enquête. Les salariés de la compagnie Hop fixés aujourd'hui sur le plan social annoncé par leur direction. Et puis les supporters du PSG présents malgré le huis clos à Lisbonne pour le quart de finale de Ligue des Champions ce soir.
J'ai jamais vu jouer l'Atalanta, l'équipe d'en face, donc je sais pas ce que ça va donner.
Mon pronostic, moi je dis qu'il y aura un 4-1, ça serait bien.
Je vous demande pas votre pronostic, Sébastien, votre invité de 7h40 en revanche.
Eh ben je demanderai justement son pronostic à Giroud, notre consultant foot sur ce PSG Bergame, pression maximale malgré à Lisbonne. Le PSG a-t-il un coup à jouer malgré les joueurs absents? Giroud donc avec nous à 7h40. Avant cela, l'édito écho à l'heure du foot là aussi avec cette question derrière le PSG. Où va la Ligue 1 économiquement? Enfin, attention aux angines, même l'été, ce sera le thème de votre rendez-vous santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bon réveil avec Europe 1, il est 7h02.
Europe 1, écoutez le monde changer.
En plus du parcours fléché pour aller à la machine à café, devra-t-on bientôt porter en permanence notre masque au bureau? La question commence à se poser. Hier, Jean Castex a annoncé un sérieux tour de vis des autorités face à la reprise de l'épidémie. Le port du masque va encore s'étendre dans l'espace public, il y aura aussi plus de contrôle. Mais comme on trouve de nombreuses entreprises parmi les nouveaux clusters détectés chaque jour, de plus en plus de médecins demandent au Premier ministre d'être plus strict aussi concernant le monde du travail. Victor Dolan.
Plusieurs secteurs d'activité comme la restauration, les transports ou l'industrie agroalimentaire ont décidé de prendre les devants et ont choisi de rendre obligatoire le port du masque à leurs salariés. Mais dans la plupart des entreprises, cette mesure est encore loin d'être actée. Or, depuis quelques mois, on sait que le virus se transmet via des aérosols, comme l'explique Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis.
Ces microparticules sont capables de diffuser beaucoup plus loin, et c'est cette capacité qu'a le virus de s'aérosoliser qui explique en fait qu'il est dangereux en milieu clos et qu'il est capable d'entraîner un nombre important d'infections parmi les personnes, même si elles sont à des distances de plus d'un mètre.
Donc concrètement, si vous êtes à votre poste de travail sans masque et l'un de vos collègues se trouve à 4 mètres de vous, s'il est malade, il pourra vous contaminer malgré la distance qui vous sépare, car le virus peut rester dans l'air pendant un moment. C'est d'ailleurs l'une des craintes des autorités sanitaires, que les cas de coronavirus se multiplient au moment où de très nombreux salariés vont bientôt rentrer de vacances.
Et nous sommes proches du seuil de vigilance, c'est-à-dire 20 cas pour 100 000 habitants. Hier, le Premier ministre a donc annoncé plusieurs mesures.
Prolongation de l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes jusque fin octobre et surtout contrôle renforcé sur le port du masque et le respect des gestes barrières avec une forme très claire de rappel à l'ordre.
Évitez par-dessus tout un retour en arrière, un reconfinement important. C'est indispensable. La prudence, ce n'est pas la peur. La vigilance, ce n'est pas arrêter d'agir. Mais nous devons être lucides et pour certains, je le dis, nous ressaisir.
Voilà les propos du Premier ministre hier après-midi. Bonjour Didier Chesnais.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du groupement national des indépendants de l'hôtellerie restauration. Serrage de vis, on le disait, du Premier ministre face à, on l'a vu ces derniers jours, des comportements parfois, pas forcément dans les restaurants, peut-être un peu plus dans les bars. On ferme les portes, on permet aux gens de danser. Il y a clairement des abus, ces contrôles supplémentaires, ils vous paraissent à vous justifier?
Écoutez, ce qui ne me choque pas, ce sont les contrôles. Par contre, ce qui me choque, c'est la façon dont c'est annoncé, qui voudrait un petit peu rendre responsable toute cette profession, notre profession, la propagation du virus. Comme s'il y avait une certaine stigmatisation donc, de nos établissements. Alors qu'il y ait des débordements, je ne le nie absolument pas. Il est extrêmement difficile quelquefois de canaliser donc, les jeunes particulièrement qui veulent faire la fête. Alors, sauf à empêcher les jeunes de vouloir faire la fête, je ne vois pas comment nous allons pouvoir, si vous voulez, mieux traiter le problème.
Sans stigmatiser, pensons, comme vous le dites, toute une profession, oui. Qu'est-ce que vous dites aux gérants de bars, de restaurants qui permettent, voilà, ce que disait Sébastien, de fermer les portes et de danser à l'intérieur sans masque, sans distanciation?
Non. Alors là-dessus, nous sommes très clairs. J'ai fait un rappel, notamment, vous trouvez sur notre site, j'ai fait un rappel pour bien dire à nos professionnels de respecter les normes sanitaires, les gestes barrières, tout ce qui a été prévu dans le cadre du protocole que nous avons signé.
L'idée du dépôt par les clients aussi de leurs coordonnées dans tous les bars et restaurants qu'ils fréquentent qui a été évoquée pour pouvoir tracer plus facilement les cas contacts, est-ce que ça vous paraît une bonne idée?
Écoutez, c'est une idée qui est à réfléchir. Je ne suis pas sûr que tous les clients l'accepteraient. Donc c'est un problème. Mais pourquoi pas, on peut toujours obtenir et permettre ce genre de contrôle. C'est pas quelque chose qui me choque. Mais les clients, je ne suis pas sûr que les clients l'accepteront. Nous, ce que nous pensons de toute façon, c'est que la fermeture des discothèques, comme l'a fait le gouvernement, c'est une erreur. Car les discothèques, ce sont des professionnels aguerris pour accueillir et canaliser ceux qui veulent faire la fête. Et par conséquent, si nous avons donc les jeunes, tous ceux qui veulent faire la fête, à partir du moment où ils ne trouvent pas, je dirais, d'établissement comme une discothèque pour faire cette fête, eh bien malheureusement, ils se rabattent soit sur des fêtes, je dirais, dans des lieux publics, sur les plages ou en bord de Seine, comme on le voit, et tout cela, soit quelquefois, effectivement, c'est des débordements dans certains établissements. Mais je suis très clair là-dessus, la loi, c'est la loi, les règlements que nous avons, donc, et le protocole que nous avons signé, je demande à tous nos professionnels de le respecter.
Merci Didier Chenet, président du groupement national des intendants de l'hôtellerie restauration. Merci d'avoir été avec nous en direct dans le journal de 7h ce matin sur Europe 1.
Il est 7h07, la suite du journal sur Europe 1, Sébastien Krebs, Théo Manval.
Ça a sonné très fort hier soir au-dessus de Bordeaux ou en région parisienne. Gros orage attendu encore aujourd'hui. 13 départements de la pointe bretonne à l'Indre-et-Loire sont placés en vigilance orange. Et forte chaleur, toujours avant la baisse espérée des températures. Laurent Cabrol nous le disait, demain ou après-demain, encore 13 départements en alerte rouge, canicule. Et nos organismes à tous qui commencent à être bien usés par une semaine maintenant de chaleur. Diane Berger.
Il me tarde d'être en fin de semaine, je voudrais qu'il pleuve, mais n'importe quoi, mais plus de chaleur, j'en ai marre.
Un pic à 36 degrés à Paris, une chaleur suffocante qui malmène les corps. Amandine est enceinte et épuisée, elle a donc préféré poser un jour de congé.
J'ai un tracker d'activité qui m'a dit que je me suis réveillée 3 fois dans la nuit et que je me suis réveillée à 6h du matin. Mais je pense que la sieste va pas tarder après manger. Hein.
Seulement 3 heures de sommeil pour Sonia, ses nuits sont courtes, mais ses journées, elles, restent très chargées. Pour cette mère de famille, la fatigue s'accumule depuis plusieurs jours.
Il faut lutter avec des enfants, il faut occuper les enfants, il faut sortir, il faut gérer la maison. Donc voilà, s'ils font pas de sieste, il n'y a pas de sieste pour maman.
Plus qu'un simple coup de mou, l'épuisement par la chaleur, c'est le corps qui dépense beaucoup d'énergie pour se maintenir à 37 degrés. Alors pour bien récupérer, Julie a une astuce.
Le soir, un petit bac congélation à glisser sous l'oreiller avant d'aller dormir. C'est efficace le temps de s'endormir, mais c'est pas toute la nuit.
Avec l'arrivée des orages, tous espèrent maintenant une baisse des températures de quelques degrés.
Bonjour Romain Gisolme.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le président de l'association des directeurs d'établissements au service des personnes âgées. Vous l'attendez, vous aussi, j'imagine, cette baisse du mercure, d'autant que dans les EHPAD, ça compliquait encore plus les choses. Vous n'aviez pas le droit d'utiliser les ventilateurs ces derniers jours.
Absolument, si les professionnels sont parfaitement préparés à ce type d'épisode caniculaire, puisque des plans sont enclenchés chaque année depuis 2003, ils restent largement sous-dotés en moyens humains et par ailleurs particulièrement épuisés du fait des mois passés à lutter contre le Covid. Donc oui, ces jours qui s'accumulent, nous savons qu'ils pèsent à la fois sur les organismes des personnes âgées qui sont les plus sensibles à ces fortes chaleurs, et également sur les conditions de travail des professionnels en établissement comme en service à domicile.
L'été, c'est une période toujours difficile dans les EHPAD avec la chaleur donc, et les protocoles à mettre en place. Et puis certains salariés qui prennent évidemment des vacances bien méritées. Vous dites qu'il faudrait moitié plus de personnel pour fonctionner correctement ?
Clairement, ce sur quoi l'État agit depuis 2003 indéniablement, c'est sur les systèmes de veille, d'alerte et d'information. Mais ce sur quoi il a largement insuffisamment agi, c'est sur le nombre de professionnels. C'est ainsi que nous continuons de constater chaque année des milliers de décès en excès parmi les personnes âgées. Et c'est en cela qu'il faudra que l'État engage cette loi autonomie qui est annoncée depuis des années par tous les gouvernements successifs, mais jamais mise en place. Emmanuel Macron s'y est à nouveau engagé en début de semaine dernière. Il sera indispensable effectivement que cette mesure entre en vigueur pour améliorer l'accompagnement quotidien des personnes âgées en établissement et à domicile, de soutien des familles aussi et les conditions de travail des professionnels.
Merci Romain Gisolme, on entend votre appel, donc appel au gouvernement à accélérer sur les promesses d'embauche pour les EHPAD. Romain Gisolme, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Merci, bonne journée.
Europe 1, 7h11.
Au Niger, 11 enquêteurs français spécialisés sont attendus ce matin. Ils se sont envolés pour venir prêter main forte dans les investigations après l'attaque qui a coûté la vie à 6 humanitaires français dimanche. Paris prépare aussi le rapatriement des corps et un hommage est à l'étude pour Charline, Nadifa, Myriam, Léo, Antonin et Stella, une jeune femme originaire de Montpellier et à qui l'un de ses anciens collègues pour une autre ONG en Centrafrique rend hommage ce matin sur Europe 1.
Je viens de perdre quelqu'un de fabulé, c'est quelqu'un qui a travaillé pour la communauté, pour aider les déplacés. Le travail humanitaire, quand on s'est dit on s'y engage, bon, on essaie de s'y engager vraiment avec son cœur. Et Stella, c'était ça, c'était vraiment l'engagement pur. C'est quelqu'un qui était passionné par ce qu'elle faisait, courageuse et toujours à l'écoute aussi, toujours le sourire. C'est toute cette force-là qu'elle avait en elle. En tant qu'humanitaire, on travaille de la peur au ventre. On s'est dit deux fois, est-ce que je vais revenir ou est-ce que je ne vais pas revenir? C'est vraiment des risques qu'on prend. On se sent révolté parce que c'est beaucoup de sacrifices qu'on se donne aussi. On laisse la famille, on voyage pour aller vraiment auprès d'autres communautés qui sont dans le besoin, mais échanger d'expérience aussi. Et quand les choses comme ça arrivent, c'est incompréhensible en fait. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ça arrive à des gens comme elle. C'est très triste, on n'arrive pas à expliquer la douleur qu'on ressent. C'est vraiment triste.
L'incompréhension et la douleur dédiée à un ancien collègue de Stella, l'une des 6 humanitaires françaises tuées dimanche dernier. Témoignage recueilli par Jeanne Bergaoui.
Aux États-Unis, c'est l'information de la nuit. La sénatrice noire américaine Kamala Harris, choisie par Joe Biden pour être sa colistière pour la présidentielle du mois de novembre. C'est la première fois qu'une femme afro-américaine de surcroît est choisie pour ce poste. Une femme de loi, ancienne procureure générale de Californie. Son portrait complet dans le journal de 8h.
Au Liban, une minute de silence a été observée hier soir à Beyrouth.
À 18h07 précisément, une semaine tout juste après l'explosion, les noms des 171 victimes ont été égrenés et des affrontements ont à nouveau eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Troisième nuit de manifestation aussi en Biélorussie contre la réélection contestée du président Loukachenko. Plus de 5000 personnes ont été arrêtées depuis dimanche. L'Union européenne menace le pays de sanctions.
À 7h13 sur Europe 1, l'actualité économique en France. Les salariés de la compagnie Hop seront fixés sur leur sort aujourd'hui.
La direction de cette filiale d'Air France spécialisée dans les liaisons régionales précise son plan social tout à l'heure en CSE. Fin des lignes Paris-Bordeaux et Paris-Nantes au départ d'Orly notamment. Suppression de la moitié des 2200 postes d'ici 2023. Étienne Rossignol est le représentant du personnel du syndicat UNAC.
Il y a beaucoup d'amertume, beaucoup d'aigreur, de la colère aussi chez certains salariés. Bruno Le Maire avait insisté sur le fait que la ligne rouge à ne pas franchir pour le groupe Air France, ce serait des départs contraints. Or là, il y aura à la clé des mobilités contraintes. Et donc si les gens n'acceptent pas de changer de bassin d'emploi, ou pour nous par exemple navigants, si les gens n'acceptent pas de repartir tout en bas de l'échelle des grilles salariales Air France, eh bien ils seront en position d'être licenciés. Il y a également la problématique de transfert de nos vols vers Transavia. On voit ça d'un très mauvais œil parce qu'on est en train de déshabiller Hop pour habiller Transavia, quoi, en quelque sorte. On espère que les pouvoirs publics vont réagir, sachant que c'est quand même une entreprise à capitaux publics et qui vient de recevoir des subsides de plus de 7 milliards quand même, ne l'oublions pas.
Étienne Rossignol, élu du syndicat UNAC pour la compagnie Hop, au micro européen de Clément Le Saffre.
Ça y est, c'est le grand jour, hein. Ils se préparent pour ce rendez-vous depuis le 22 juin. Les joueurs du Paris Saint-Germain retrouvent la Ligue des Champions ce soir, soirée décisive face aux Italiens de Bergame.
Une seule rencontre, pas de match retour pour ces quarts de finale version 2020 et coronavirus. Match à 21h à Lisbonne, à huis clos. Mais quelques supporters parisiens ont quand même fait le déplacement.
En toute modestie, Paris est vraiment au-dessus. On doit aller en demi-finale et voir la finale parce que notre tableau est vraiment dégagé. Ce serait bête de louper ça, quoi.
Mon pronostic, moi je dis qu'il y aura
au moins un 4-1, ça serait bien.
Je sais pas, j'ai jamais vu jouer l'Atalanta, l'équipe d'en face, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais ouais, je pense qu'on va gagner.
Confiante quand même, j'y crois, hein. Puis il faut, hein. On est là pour ça quand même, sinon voilà, à quoi ça doit supporter. Après voilà, ça, la Ligue des Champions, c'est très bien ce qui peut arriver, hein, dans un sens comme dans l'autre, mais je suis plutôt confiante quand même dans l'ensemble. Allez Paris.
Confiance, confiance pour les supporters parisiens au micro de Julien Froment qui nous fera vivre le match en direct et en intégralité. Soirée spéciale sur Europe 1, c'est à suivre à partir de 20h.
Et on verra tout à l'heure si notre consultant Giroud est aussi confiant que ses supporters. Giroud qui sera avec nous, allez, dans une demi-heure aux alentours de 7h40. C'était le journal de Théo Manval, prochain journal à 7h30.